première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Pourquoi bâtir encore ?
Emmeline Curien. Moi, je suis enseignante à l'école d'architecture de Nancy et chercheuse sur les pratiques contemporaines de l'architecture.
Pourquoi bâtir encore ? À la Galerie Juvénale, Place Verte à Ouï, samedi et dimanche de 14 à 18 heures. Exposition jusqu'au 30 juin d'Éric Furnemont. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kalisky.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tentoque, me tentententum, stélie.
Le monde invisible.
Donc, Julie Maréchal, nous sommes à Ouï, Place Verte, devant une galerie intitulée Galerie Juvénale.
Je suis architecte et j'ai aussi fait des études de philosophie.
Tu regardes le corbeau, là, au milieu de la pelouse.
Oui. Il y en a beaucoup. Et l'autre, c'est vrai que quand on est en haut, on a l'impression d'être à hauteur des oiseaux. On est vraiment comme sur notre petite barre.
C'est Jenny Bolly Charlier à l'époque, qui est une généreuse donatrice qui a légué à la ville une série de bâtiments, qui a demandé, sur présence d'un notaire, de laisser à disposition cette galerie pour organiser des expositions, et c'est depuis les années 70 qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées grâce à Jenny Bolly.
Avec Julie Maréchal, Émilie Montagnier, Anne Biquet-Bouchat, Émiline Curien et Éric Furnemont.
C'est la Fondation Bolly-Charlier qui ont émis l'idée d'inviter, après la restauration de la galerie, d'inviter des artistes qui étaient engagés politiquement. Et c'est Luc Navet, le président de la Fondation, qui m'a proposé de faire une exposition sur mon travail et sur le sens de mon travail.
Pourquoi bâtir encore ? Partir et Junico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Ce sont les amis qui habitent ici, en face, qui ont remarqué que ce grand terrain était à vendre et qui ont paniqué, qui se disent « catastrophe, on va construire plein de maisons ». Et alors quand on a su qu'il était à vendre, on s'est dit qu'on allait l'acheter. Et on l'a acheté à deux, pour un prix dérisoire d'ailleurs à l'époque. Et alors on a fait plein de choses sur cette prairie.
Alors Éric Furnemont, c'est un architecte de la région qui, en fait, a été invité par Luc Navet. Luc Navet est le président de la Fondation Bolly-Charlier et c'est lui qui a en charge cette exposition.
On venait avec notre camionnette, en général. Mais on campait, on campait. C'était le chat qui était dans la camionnette. Et on a encore des chats, d'ailleurs. On les a recueillis, on les a trouvés un petit peu partout. Où ils nous ont trouvés plutôt. Il y en a un qu'on a trouvé sur le tracteur, deux autres dans une boîte. Ils étaient au bord de la route dans une boîte en carton.
J'ai fait effectivement mes études à Liège dans les années 80 avec Jacques Gillet, qui avait ouvert une section qui était unique en Europe, qu'il avait appelée architecture organique, et qui avait effectivement proposé une réflexion sur une architecture plus vivante et plus questionnante que l'époque dans laquelle on était dans les années 80, c'est-à-dire le postmodernisme en définitive, hein. Avec Aldo Rossi, Michael Graves et des gens comme ça. Donc il y avait vraiment des tendances très différentes et c'était un atelier extrêmement vivant où on parlait beaucoup d'art et de poésie et de musique et de sculpture et du sens des formes. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Mais le mot a été galvaudé, en fait, parce que au départ c'est un terme qui est utilisé par Frank-Lloyd Wright, hein, aux États-Unis, et chez lui carrément dans le sens de, comme on dit, organique chez nous, pour l'alimentation. C'est presque dans le sens biologique chez lui. C'est une vouloir, une architecture qui forme une relation avec son environnement et pas un objet formel qui s'en détache. Tant entendu que environnement est aussi un mauvais concept et qu'il faut l'entendre dans le sens élargi, bien sûr, pas seulement l'environnement naturel, mais les habitants bien entendu, mais la société tout entière, son humanité, ses systèmes économiques, ses modes de pensée. Pour aller dans ce sens-là, si on peut dire organique dans ce sens-là, j'essaye de construire une architecture qui se relie le plus possible avec les éléments qui la construisent.
Je m'intéresse en fait à des architectes contemporains donc, qui bâtissent aujourd'hui. Et ce que je cherche, c'est des gens qui nous permettent de penser la manière dont on peut bâtir avec sens aujourd'hui, en prenant en compte l'écologie, mais pas seulement matérielle, pas seulement le choix de matériaux sains, de matériaux locaux, mais aussi toute l'écologie psychique, tous les rapports de force qui existent dès qu'on pose un geste dans le monde en tant qu'architecte.
Quand j'ai commencé à pratiquer l'architecture, j'étais très très inquiet des questions écologiques. Dans les années 80, c'était compliqué.
Et on a même passé, on a même passé un réveillon sous la tente avec un poêle. Un poêle au bois qu'on avait placé sous la tente, avec une bâche au-dessus. On avait mis plein de sacs de couchage, de vieux tapis et tout, et on, toutes les heures, on mettait une bûche dans le poêle et il y avait moins 16. Il y avait moins 16 et on a tenu le coup. On avait besoin de se dépasser un peu.
On mettait des blocs de béton avec 5 cm de polyuréthane, du plafonnage radioactif qui venait de Préyon, qui jetait les résidus iodés, des engrais chimiques qu'il ne pouvait plus les jeter dans la Meuse, alors il les tapait dans le plafonnage de chez Knauf. Et on ne se posait aucune question de ce genre-là. Et quand tu commences à 25 ans à faire ta première construction et que tu dis « je vais pas mettre 5 cm de polyuréthane, mais mettre 15 cm de laine de roche avec les chevrons dans l'autre sens, on te regarde de travers. » Quand 5 ans après, tu fais ton premier bâtiment en bois, local, avec des scieries qui viennent tout proche, sans aucun traitement chimique. Comment ?
On se trouve dans quelle région ?
L'ASB. L'ASB, entre Annuy et Warem. Alors en fait, on a acheté la prairie en 1993, en décembre, et on s'est dit que si on était foutu, qu'on ne pouvait plus se mettre nulle part, qu'on viendrait avec notre tente ou notre camionnette s'installer ici. Et on a campé pendant des années. Et puis, on connaissait Éric Furnémont par la... On était membre de... Comment ça s'appelle encore ? Merde, je ne sais plus. Bref, il avait fait une étable pour les vaches qui était magnifique, avec des fenêtres au niveau de leurs yeux, toutes tournées les unes vers les autres. Le bâtiment était très beau. Et alors, la Voie Lactée, voilà, ce groupe s'appelait la Voie Lactée. On était propriétaire d'un morceau de vache, une partie de vache, et on recevait et on payait, évidemment, les produits laitiers une fois par semaine.
Quand on essayait de réfléchir à l'écologie de la construction, on se rend très très vite compte qu'on touche à des questions sociales et à des questions politiques.
Éric Furnémont.
Et quand on continue à travailler cette question-là, à un moment donné, à l'intérieur même du développement de ton travail, un jour, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je continue encore à faire ça ? Il y a des bâtiments partout. Pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser de la matière ? Pourquoi est-ce qu'on continue à consommer des sols ? Pourquoi est-ce qu'on n'invente pas une autre politique qui prend en compte l'existant, point barre ? Tu vois ? Et donc, pourquoi bâtir encore ? C'est effectivement pour réaffirmer la nécessité d'inventer des autres modes d'habiter, de réfléchir à comment on pourrait, à l'intérieur de ma pratique d'architecte, intervenir sur une modification de la société, de la manière dont les gens vivent, de la manière dont les gens pensent, de la manière dont les gens se comportent, évidemment.
Ça va créer des métiers différents chez les gens, c'est-à-dire que si on choisit de bâtir en bois avec des artisans locaux, on va pas offrir la même vie aux gens que si on travaille avec des matériaux industrialisés et des gens qui vont aller à l'usine tous les jours. Donc à chaque fois qu'on fait un geste en tant qu'architecte, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement de regarder le bâtiment et ce qu'il produit dans son environnement immédiat, mais ce que ça produit finalement à l'échelle de la planète.
Prenez un arbre dans le Condreau, que vous le coupez et que vous l'apportez à la scierie mobile dans le village d'à côté pour le remettre dans la maison. D'abord, vous faites un acte éminemment écologique. Circuit plus court que ça, c'est pas possible. Alors que le système du capital, il va te couper des forêts entières, prendre ces troncs-là, les mettre sur des camions pour les emmener dans des containers à Anvers, où ils vont partir en Chine ou ailleurs, pour être débités en 2 mm, recollés sur des trucs dégueulasses, et revendus dans les bricots. Hein? Et c'est moins cher. C'est moins cher pourquoi ? Parce qu'on ne taxe pas le capital, on ne taxe pas le transport, hein? Et on paye à l'autre bout de la planète des gens 10 fois moins chers qu'ici, où on taxe le travail comme c'est pas permis, plutôt que de taxer la propriété et effectivement le capital. Donc c'est extrêmement difficile. Dès que tu commences à te poser des questions sur l'écologie de la construction, tu te heurtes tout de suite à des structures sociales et des structures politiques qui sont conservatrices par excellence. Hein? J'ai entendu « Dimfi, si tu faisais des maisons normales, tout ça n'arriverait pas. » Tu vois, une maison normale, dans leur tête, c'est ça. C'est un bloc de béton avec du polyuréthane, une brique tête pressée, des châssis en plastique, hein, une piscine avec de l'eau chlorée dedans, des jouets en plastique pour les enfants, une clôture avec des tuyaux autour. Hein. Et c'est conforme au règlement. Donc, à peu près tout, jusque aujourd'hui, les règlements d'urbanisme, les systèmes constructifs, les systèmes de transport de matériaux, le désapprentissage systématique d'un artisanat. Je veux dire, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait des charpentes avec des gars qui faisaient encore des charpentes à la hache. Ils amenaient les arbres sur place et ils faisaient la charpente à la hache. Aujourd'hui, c'est plus possible. Plus personne ne sait faire ça.
Tout ça avait été planté comme il fallait, double bêchage, enfin tout. Et donc, ça, évidemment, ça a éclaté, c'est énorme. On pensait qu'on les verrait jamais grands, ces arbres, et en fait, ils sont là. On a même commencé à en abattre certains. Oui, le noyer, mais il a aussi encore grandi.
Donc on a perdu toute une relation avec l'environnement. Dans mon village, à Saint-Fontaine, ben, les pierres des maisons, elles venaient de la carrière, de l'autre côté de la rivière, les arbres venaient de la forêt. L'intégration se fait toute seule. T'as pas besoin de te poser la question de savoir quel règlement il faut. Tout le monde avait des savoir-faire qui étaient utilisés avec des matériaux locaux. Plus écologiques que ça, tu ne sais pas faire.
Alors, je me suis par exemple intéressée à un architecte suisse qui s'appelle John Acaminada, qui vit dans un village des Grisons, qui est tout au bout de la vallée, 250 habitants. Et en fait, il a réussi dans ce village à créer une vingtaine d'habitations, de bâtiments collectifs, de bâtiments agricoles, en faisant appel aux ressources locales, et en ayant vraiment une réflexion holistique sur tous les aspects de la vie du village. Donc, par exemple, un de ces bâtiments, c'est une boucherie-abattoir qui permet de transformer la viande sur place et qui permet aux habitants, finalement, d'avoir une activité économique qui leur permet de rester dans le village.
Il y a tout un intérêt à l'intérieur de mon travail qui est effectivement de dire la manière dont je pose des gestes.
Et vous êtes-vous intéressé à ce qui s'est fait et se fait encore à Notre-Dame-des-Landes ?
Oui. Absolument. C'est un laboratoire incroyable pour ce genre de pratique parce qu'effectivement, dès qu'on sort des règles conventionnelles de la propriété privée, dès qu'on sort des normes et donc on peut construire à partir des matériaux de récupération, dès qu'on sort des structures habituelles de règlement des conflits dans l'espace et qu'on est dans des pratiques collectives d'appropriation dans un temps long, on peut mettre ça en place. Donc on voit que finalement, dès qu'on fait sauter ces verrous-là, les gens arrivent très bien à construire des lieux poétiques, politiques, et qui sont des exemples, je crois, pour l'ensemble de nos pratiques.
Et quant à ce qui se fait aujourd'hui, je pense à l'habitat léger,
oui,
aux yourtes et autres, ce ne sont pas des essais de vie
nomades,
absolument,
ouais. Nomades. Qui essayent d'échapper à toutes ces contraintes, à la lourdeur de ce que ça suppose de construire aujourd'hui, c'est-à-dire de devoir se raccorder à l'eau, même si on n'a pas envie de se raccorder à l'eau, de devoir se raccorder à l'électricité. Alors ça, je ne suis pas sûre que ça soit obligatoire, je vous dis sans doute une bêtise, mais et oui, d'échapper à cette lourdeur et d'aller s'installer dans des habitats légers qu'on va pouvoir déplacer au gré de la constitution de nouvelles relations, de nouveaux métiers, de nouvelles façons d'habiter. Ouais.
À l'entrée de l'exposition, j'ai voulu placer quelque chose comme un cabinet de curiosité,
C'est-à-dire un endroit qui, à tout le moins, rend hommage à tous les êtres, que ce soit des philosophes, des poètes, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, qui ont participé de la manière dont moi je pense. Donc de la même manière que quand je construis, je me pose la question de savoir pourquoi je fais ça, avec quoi je me relie. De la même manière, dans l'exposition, je voulais absolument montrer que d'abord le but c'est permettre un habiter différent pour les êtres, et que moi aussi, je ne suis pas un créateur d'objets qui les dépose dans un paysage pour être publié dans une revue. C'est pas ça le but.
Et alors le matin, effectivement, comme tout ça était petit, on voyait le soleil se lever, on avait notre tente qui séchait. Et de ce côté-là, on faisait le feu, mais c'est un bois, c'est devenu un bois. Et alors oui, j'aime bien l'idée de Gilles Clément, les îlots d'herbe. Donc on fait des îlots d'herbe et à un moment donné, je tombe.
Et donc il y aura dans l'exposition toute une partie qui rendra hommage à tout ce qui m'a permis de construire ma pensée et ma capacité à résister. Point.
Éric vient de l'évoquer, donc c'est vrai que l'idée c'était de faire un film, on ne m'imposait pas de contraintes.
Émilie Montagnier.
Donc on s'est rencontrés, Éric et moi, donc moi ma première démarche ça a été de dire, ok, si je dois faire un documentaire, il faut que j'apprenne à connaître le personnage quand même, parce que voilà. Donc je me suis invitée 2 jours chez eux le premier été pour apprendre à les connaître, voilà. J'ai tourné quelques images à ce moment-là et puis on a assez vite décidé de ne pas les intégrer au film parce qu'on s'est dit qu'en effet c'était peut-être plus intéressant d'aller voir ce qu'on ne verra pas ici, c'est-à-dire les gens qui vivent dans les maisons et comment ils vivent dans ces habitations, plutôt que de refaire une interview très intelligible de l'architecte qui allait raconter son travail. Voilà, je trouve que c'est sympa aussi que ça puisse passer à travers le regard des commanditaires, entre guillemets, des lieux qu'on évoque. Voilà, après, je ne vais pas dévoiler le contenu du film parce que ça me tient à cœur aussi que ce soit un peu, pas une surprise, mais quelque chose d'un peu inédit. Mais il est clair que ce n'était pas des démarches, comment dire, pas habituelles, mais le rapport avec l'architecte ici avait vraiment de l'importance, en tout cas pour les gens.
Depuis une trentaine d'années, très tôt en fait, il s'est confronté à ces questions d'une manière assez solitaire. Et il a accompagné des groupes qui lui ont permis d'aller plus loin dans cette réflexion. Alors quand je dis des groupes, c'est les enseignants, les élèves et les parents d'élèves de l'école Perceval, par exemple, qui est une école en pédagogie Steiner. Il a aussi été dans des groupes d'agriculture biologique ou dans des groupes qui voulaient monter des habitats partagés à une époque où c'était vraiment pas une habitude. Et ces expérimentations-là, cette confrontation-là au concret et aux difficultés de ce genre de projet, lui ont permis d'aller encore plus loin dans sa réflexion et dans la construction de son engagement, finalement. Et ce qui m'intéresse dans son travail, c'est la forme de son engagement, et puis c'est la manière dont ça produit des formes dans l'espace. Parfois, les deux sont déconnectés, et là, les deux se nourrissent mutuellement, et c'est ça qui m'a intéressée.
Au moment où on est arrivé à notre pension, à l'âge de la pension, on avait un petit peu de sous, on avait une assurance et tout, on a tout mis ensemble et on a décidé de faire construire une maison. Et on s'est adressé à Éric.
Comment s'appelle le film dont vous êtes auteur ?
Le film s'appelle Organique et je l'ai sous-titré un documentaire sur l'architecture d'Éric Furnemont et ses habitants. Émilie Montagnier.
Et on avait un certain budget et on ne pouvait pas le dépasser. Et alors, Rick a dit, ce sera spartiate. Alors, Rick a dit, bon, spartiate, oui, mais pas Diogène. Effectivement, on est plutôt sur la hauteur. Il a imaginé un bâtiment sur pilotis qui permettait de voir au-dessus de la haie. tout en bois, avec seulement la cheminée qui était en briques. La cheminée avec le poêle à cassette. Donc on se chauffe au bois, mais en même temps il y a le pelé aussi. Et alors, moi j'aime beaucoup le bâtiment parce que je trouve qu'il ressemble à une sculpture de Serge Van der Kam. Il a sa période des oisales. Et je trouve qu'avec ici, ce que j'appelle l'oreille, c'est un peu comme une aile d'oiseau. C'est un peu comme un oiseau. C'est un peu comme la tête de l'oiseau et son aile, quoi. Enfin bon, on l'appelle l'oreille.
Et que ressentez-vous à l'intérieur de ces habitations?
Alors c'est très différent d'une maison à l'autre. C'est très différent d'un lieu à l'autre. D'ailleurs, j'ai l'impression que la façon dont j'ai conduit mes interviews, et maintenant en revoyant les rushs, j'ai choisi le mot organique comme titre pour le film, parce que justement, il y a une relation à la matière qui est assez impressionnante. Donc ce que j'aime aussi dans les maisons, au-delà de la lumière qui me passionne, ce sont les odeurs.
Il avait plein pouvoir, il nous a demandé d'écrire une lettre en demandant ce qu'on voulait. Luc, mon mari, a dit, moi, je voudrais dans ma maison comme dans une paire de pantoufles. Et moi, j'ai dit, je voudrais voir mon jardin de la maison. Donc, effectivement, il y a une série de fenêtres de l'est au sud, sud-est et à l'ouest. Et le nord est tout à fait fermé.
J'ai l'intention d'aller rencontrer ces habitants. Vous pensez à qui, là, que je pourrais aller voir avec l'architecte?
Alors moi, j'ai eu un coup de cœur, mais c'est, encore une fois, très personnel pour la famille Bouchard-Buquet.
On a fait avec ce qu'on avait, donc il n'y a pas de placard. On a mis ici une armoire de mon grand-père.
Les personnages qui habitent cette maison sont vraiment des personnages, en fait. On pourrait faire un film que sur la vie de ces gens-là et que sur l'amour et l'attachement qu'ils ont pour leur terrain et maintenant l'attachement qu'ils ont pour leur maison, leur lieu de vie.
Alors j'aime bien le mélange des fleurs sauvages avec des fleurs achetées en pépinière, et donc il y a un mélange qui se fait. Je ne traite pas, par conséquent tout se déplace un peu, les plantes se déplacent et ça fait des chouettes parterres. Voilà, il y a des choses qui sont venues tout à fait spontanément.
Et l'architecte a-t-il participé du dessin du jardin?
Non, on s'était dit, lui c'était la maison, moi c'était le jardin.
Déjà, c'est une maison qui a été pensée pour être totalement ouverte et qui en même temps, en étant ouverte, regorge de recoins comme ça.
Il y a une haie, d'anciens poteaux de saule qui ont grandi, qui sont devenus des arbres, et des allées, des petits sentiers le long de la haie, des parterres d'arbustes mélangé à des fleurs mi-sauvages, cultivées, avec des ronds. J'ai taillé certains saules pour en faire un peu comme une sculpture ou une structure.
Il y a une vraie intimité qui peut se créer dans certains lieux de la maison, alors que la circulation est libre. Sinon, l'intérieur, c'est assez fascinant parce que avec cette lumière qui baigne l'entièreté de la maison, toutes les matières des meubles, des tissus.
J'aime bien l'idée du balcon où on se penche, on admire, on réfléchit, on rêve.
Quand tu demandais aux entreprises de mettre 15 cm d'isolant dans une toiture plutôt que du 5 cm de polyuréthane, on te regardait de travers. Donc quand 5 ans après, tu fais les premiers bâtiments en bois du pays, sans produits chimiques, avec des bois locaux qui viennent des scieries d'à côté et que tu travailles en autoconstruction avec les gens pour que ça coûte moins cher. D'abord, systématiquement, les administrations et les communes et l'administration de la région wallonne ont été au début terrorisées. Donc j'ai eu énormément de difficultés à faire accepter un mode de pensée différent, que ce soit centré sur l'écologie. Et puis très naturellement, je me suis orienté vers des projets engagés dans ce sens-là. C'est-à-dire j'ai construit des fermes en biodynamie. J'étais très intéressé par l'anthroposophie à l'époque. Des fermes en biodynamie. Des gens qui essayaient de cultiver autrement. C'est ça que je veux dire engagé.
Donc moi-même, je m'engageais auprès de gens qui essayaient de construire des projets de ville, des projets de commerce, puisqu'on a fait une association, par exemple, dans les années 90, qui s'appelle La Voie Lactée, qui était une des premières associations de producteurs aux consommateurs directement, hein, où les gens avaient acheté des parts de vaches dans la ferme, fournissaient un revenu mensuel aux fermiers, quelle que soit la production de lait, parce que si on laisse vivre effectivement les animaux plus en accord avec la nature, la production de lait par exemple est très variable entre l'été et l'hiver. Et donc ils avaient un salaire fixe qui était fourni par l'association et nous on recevait les produits, le lait, le beurre, le fromage, les légumes, on recevait les produits de manière hebdomadaire en s'investissant dans l'association. Je fais des fermes en biodynamie, qui est par exemple une association autour de la ferme de Philippe Vasibous à Chevron, qui était une des premières fermes aussi en biodynamie en Wallonie, qui s'appelle Chante-Terre, l'association qui libère le moyen de travail. Donc Philippe Vasibous était propriétaire par exemple de 3 hectares à Chevron, qui étaient des hectares à terrain à bâtir. Il n'avait pas l'argent pour les acheter. Il a fait appel à de l'aide pour acheter ces terrains, pour conserver les dizaines d'années de travail qu'il avait fait sur cette terre. Et il a trouvé les fonds pour acheter ces sols-là. Et quand il a reçu les fonds, il a dit « mais c'est pas à moi, en fait ». Et nous avons créé une association dont les statuts, par exemple, ont influencé des associations dans le Brabant Wallon comme Terre en Vue, qui sont des associations de coopératives où les gens qui ont du capital peuvent investir dans Terre en Vue pour libérer le sol de la spéculation. Et après, Terre en Vue les redonne à la location, mais à des conditions claires, principalement de l'agriculture biologique. Hein. J'ai fait des écoles Steiner. J'ai fait l'école Steiner de Cours-Saint-Étienne, j'ai fait l'école Steiner à Anvers aussi. Et aussi tout un certain nombre de projets d'habitat groupé, c'est-à-dire de projets où il ne s'agit pas seulement de construire des maisons dans un lotissement, quatre façades avec la haie de tuya et la piscine, en chloré hein, et les jouets en plastique, mais de réfléchir sur la manière de vivre ensemble, sur l'impact de la propriété, sur la possibilité de créer du commun. Et donc les 14 stations qui sont ici dans la ville, elles sont effectivement aussi un retour d'un projet que j'ai construit il y a 20 ans. Ici à Solières, à la Sartamin, ici au-dessus de Huy, avec un groupe de personnes qui avaient acheté à l'époque un terrain d'un hectare et demi à bâtir et 27 hectares de forêt avec une carrière et une rivière. Utiliser le bois pour construire les maisons et non seulement d'utiliser un maximum de ressources locales, mais de réfléchir sur la manière de construire du commun et la possibilité de vivre ensemble autrement.
Donc il y a vraiment eu à chaque fois des rencontres humaines, je pense, qui se sont opérées, du moins entre Eric et les gens que j'ai rencontrés, parce que je n'ai pas rencontré tout le monde.
Sinon, sur l'architecture que je fais, c'est impossible.
Voilà, c'est ça. Et donc chacun a sa façon d'appréhender le personnage et le rapport qu'il avait à leurs habitations et tout ça.
Si vous me dites un architecte engagé, aujourd'hui je vois qu'il y a énormément de gens qui souhaitent que la société fonctionne autrement et sur base d'autres valeurs. Et donc je pense qu'une des clés pour retourner la dégradation de l'environnement et les situations sociales dans lesquelles nous sommes est un engagement politique fort. Et aujourd'hui, en règle générale, je ne vois pas, je ne veux pas mettre tous les politiciens dans le même sac, mais aujourd'hui, en règle générale, je pense que le discours politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de poser les questions au moment où on élabore un projet qui vont dans le sens d'un engagement vers des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de partager, des nouvelles manières de respecter l'environnement.
Ils m'ont confié assez rapidement tout ce qu'ils avaient été sollicités par Eric pour écrire une lettre, et même séparément dans les couples. Donc madame écrivait une lettre. Cher architecte, la maison de mes rêves serait comme ceci, comme ceci, comme ceci.
Tout le monde vit ensemble. L'air que je respire, c'est l'air de tous. C'est le même que le vôtre. L'eau que je bois, c'est l'eau de tous. Tout le monde vit ensemble. On n'a qu'une seule terre à partager. Tout le monde vit ensemble. Le problème, c'est la manière. On ne fait pas la même chose lorsque l'on a un château dans le Condreau, 3 maisons avenue Molière à Bruxelles, un autre dans le Luberon, un quatrième en Hollande, hein, que quand on est au chômage et qu'on vit dans un petit appartement à côté de la gare. Ça, c'est clair.
Monsieur écrivait une lettre. Il y en a qui ont fait des listes, il y en a qui ont fait des lettres. Enfin, voilà. J'ai pas vu tout. Il y a une personne qui me relit la lettre. C'est très drôle. C'est très joli. Et donc, voilà, c'est une espèce de cahier d'envie par rapport à mon habitat idéal.
Il y a un moment où, quand on voit la manière dont on exploite la planète, le sol, les ressources, et la disposition réelle des habitats, tu pourrais te dire, on arrête, quoi. Arrêtons de continuer à consommer la campagne, arrêtons de continuer à consommer de la matière, arrêtons, tout simplement, faisons avec ce qu'on a. Enfin, zéro déchet, je ne sais pas quoi, moi. Arrêtons. Et la question politique, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, à un moment donné, elle dit, pourquoi est-ce que tu construis encore ? Et curieusement, ma réponse est positive, sinon je ne le ferais pas, évidemment. Hein ? Et je dis oui, malgré tout, malgré ça, c'est la manière dont on le fait. Hein ? Autrement dit, quand je prescris un matériau, si je choisis une planche, qu'est-ce que je fais ? Quand je coupe un arbre, qu'est-ce que je fais ? Si je coupe les arbres dans le chondreau, que je les mets sur des containers, que je les envoie en verse, pour les faire peler par des Chinois, en 2 mm, pour les remettre sur du quick-step et les vendre dans le bricot. C'est moins cher que de couper des planches dans le bois et de les remettre directement dans la maison. Pour le moment, hein, parce qu'on ne taxe pas le capital, parce que le transport n'est pas taxé, parce qu'on taxe le travail. Hein. Donc, rien qu'avec une planche, on est déjà dans cette question politique fondamentale. Et qui est entièrement... Et un architecte, il est entièrement lié aux structures. Je ne peux pas changer les lois du capital, moi. C'est impossible. Hein. Et je peux, à l'intérieur de la manière dont je travaille, donc voilà, je termine deux maisons à Mont-Saint-Guibert, à Louvain-la-Neuve, sur le coin de Mont-Saint-Guibert et Louvain-la-Neuve, un terrain de 1500 m² où il y a encore des arbres. Louvain-la-Neuve, il faut chercher. Je dis, qu'est-ce que je fais ? On me demande de construire deux maisons. Je coupe pas. Je suis obligé de couper. Mais qu'est-ce que je fais ? Je prends le temps d'aller relever chaque arbre. Et que tous les arbres que je vais sacrifier pour y mettre ma maison, je les prends, je les écorce et je construis ma maison avec. Et je le rends hommage. C'est bien évidemment un acte politique, c'est aussi un acte symbolique. Enfin, je veux dire, c'est aussi une dimension. Quand vous rentrez là-dedans, il y a ce souvenir, il y a cette présence qui n'est pas du tout la même, hein, que si j'avais fait mes poteaux en béton. Pas du tout. Donc oui, encore oui.
Ou alors, les projets sélectionnés par Eric sont... c'est magique et tout le monde était content. Mais en tout cas, moi, personne ne m'a encore dit « catastrophe ». J'ai eu une maison tournée dans l'autre sens. C'était pas ça que je voulais. J'ai pas compris. Je dors en bas. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, au niveau de mon investigation à moi, c'est assez touchant de voir le lien qu'il y a finalement entre ces cahiers d'envie et les habitations, parce que j'ai pu m'y rendre. Et j'évoquais ça tout à l'heure, j'ai appelé le film organique parce que c'est cette impression-là que j'ai eue quand j'étais dans les différentes habitations, même si j'ai ressenti des choses différentes dans un univers et dans un autre.
La question écologique, elle vient effectivement de la coupure progressive avec la nature qui est inévitablement liée à un ensemble de facteurs, au développement progressif, pour faire très court, du système du capital à partir de la fin du Moyen-Âge et des grandes découvertes. Donc effectivement, quand en même temps on invente la caravelle et la lentille, l'éloignement, hein, l'éloignement ne fonctionne pas sans le système du capital. C'est pas possible d'affréter trois caravelles avec des centaines de gars dedans pour aller chercher de l'or aux États-Unis sans qu'il y ait des banquiers florentins, oui, ou espagnols, que sais-je, disent « je vais émettre une partie de ma fortune dans cette aventure-là, quitte à la perdre ». Hein, mais s'ils reviennent avec de l'or, alors là, j'aurais gagné des sous. Donc, il y a le développement de toutes les techniques, effectivement, tout au début de la Renaissance. Il y a la conception d'un individu autonome, l'idée de la conception d'un individu autonome et indépendant, dont sa liberté serait indépendante de son environnement, hein, qui cumule avec Descartes quand il dit... pas besoin d'exister. Hein ? Pour exister, il faut que je pense. Excuse-moi mon vieux, mais t'aurais mieux fait de voir que tu respirais avant, hein, et qu'on t'a nourri, peut-être. Ta mère t'a donné le sein. Donc, la preuve de l'existence, uniquement par la pensée, par le doute, certes, mais uniquement par la pensée. Hein. Et troisièmement, bien entendu, l'industrie. C'est-à-dire que l'ensemble de ces choses-là se couple à la puissance industrielle. C'est-à-dire à cette puissance industrielle qui est elle-même fondée sur l'énergie fossile. Ce serait impossible d'arriver à la quantité d'énergie qu'on a si on ne disposait pas de cette énorme quantité d'énergie fossile. Donc un architecte aujourd'hui, lorsqu'il prescrit une citerne à mazout avec une chaudière à mazout, il participe de la guerre au Moyen-Orient. Qu'on le veuille ou non, même si c'est désagréable à entendre pour certains, mais c'est comme ça.
J'aime les petites choses ordinaires de la vie de tous les jours, la matière, les tissus, les meubles, tout ça. Et les choses à l'intérieur des maisons vivent autrement que dans les maisons habituelles. Je pense que c'est un rapport à la lumière aussi qui fait ça. Et puis j'évoquais les odeurs. Alors oui, bon, je suis cinéaste, pas de chance, mais ce que j'aime chez les gens, c'est l'odeur.
Des poètes, d'abord, Rilke. Des poètes russes, Mandelstam, Marina Tsvetaeva, René Char, des philosophes, Heidegger, oui, beaucoup, mais encore plus encore Félix Guattari. Félix Guattari que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup apprécié, parce que justement il était capable de sortir la philosophie de son enfermement et de soulever des questions sociales et politiques inévitablement même dans la pensée. Et ça, j'avais beaucoup de respect pour ça.
L'odeur de la maison, l'odeur de l'environnement et tout ça. Et donc, j'essaie de faire des images qui montrent de la lumière et un peu les odeurs aussi. On dirait si ça marche. Et voilà. Et donc, en effet, il y a un truc organique dans les choses qui... Donc, il y a forcément l'humain qui vit dans la maison et est organique. Mais les petites choses qui font le quotidien des humains prennent une vie différente aussi dans les espaces.
Dans les philosophes, oui, Deleuze, Guattari, mais Héraclite, d'abord, hein, au fond du fond du fond, c'est très clair, quoi. Hein, quand même, tentative de garder une pensée vivante et de résister à la mort. Voilà, et puis il y a des peintres, bien entendu, des gens qui m'ont beaucoup touché, il y a des sculpteurs. Il y a Michel-Ange.
Forme organique. Emmeline Curiel.
C'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture d'Éric Furnemont, en fait, plus largement, je m'intéressais à l'architecture en Wallonie, que je ne connaissais pas du tout. Et je suis tombée sur l'architecture de Bernard Herbecq, d'Éric Furnemont et de Yves Dellet, qui était, moi qui suis française et qui ai été éduquée dans une école où on parlait très peu de ces formes-là, j'ai été tout de suite très étonnée dans un premier temps et j'ai eu envie de creuser ce que justement on mettait derrière ce terme organique. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement on regroupait des approches très différentes à partir des formes qu'ils produisaient et pas à partir de l'énergie ou de la réflexion qui produisait ces formes. Donc très vite je me suis aperçue que c'était un terme qui était à manipuler avec beaucoup de précaution. Parce que finalement on parle d'architecture organique parfois juste parce qu'on a repéré une ligne courbe dans un projet d'architecture. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment essayé de creuser ces questions en revenant à Frank Lloyd Wright, qui est un architecte américain qui a commencé à l'épouser vraiment dans cette démarche-là, organique au sens de biologique, au sens de ce qui est vivant finalement. Une architecture vivante qui crée des relations qui est la richesse de celle qui se passe dans la nature. Et ce que je retiens de ce terme organique, pour moi, c'est cette définition-là. Et une architecture telle que parfois l'a fait Éric Furnemont avec des formes quadrangulaires et des angles droits peut être une architecture organique. Ce n'est pas pour moi pas immédiatement lié à des formes qui seraient courbes ou qui suivraient des lignes du paysage.
Dans ma bibliothèque avec mon piano et mes livres d'art, j'ai donné un cours pour 10 ans d'histoire de la conscience à travers les formes de l'art dans une école qui formait des art thérapeutes. Et c'était extrêmement intéressant parce que c'était un cours qui prenait une heure d'exposé et puis on prenait 2 heures pour reproduire une œuvre. Vraiment, on prenait le matériel nécessaire pour chaque fois reproduire une œuvre. Donc les hiéroglyphes qui sont sur les pierres de Gavrinis, qu'est-ce que c'est? Ah, on ne comprend pas évidemment, mais qu'est-ce que ça fait quand on plonge dedans, hein? Et quand on fait ça pendant plusieurs années et qu'on parcourt l'ensemble de l'histoire de l'art, c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a beaucoup d'artistes que...
La haie, hein, oui, c'est une haie d'aubépine tout à fait dans la tradition de la région. Et d'ailleurs, il y avait avant une succession de prairies humide, entouré d'aubépines. C'était un très très bel endroit et malheureusement maintenant tout a été transformé en champ. Quand ils traitent, aux abris, on court aux abris, on ferme les fenêtres et puis on attend que ça passe. Enfin, la quantité de... Enfin, c'est minime, quoi. C'est minime par rapport au plaisir qu'on a de regarder le paysage, regarder le jardin, de s'installer là, de se coucher, de lire son bouquin. Voilà. Ah oui, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce... C'est un peu comme... J'aime bien ce corridor comme ça, avec ses poteaux. Ça va être couvert. Regardez, ça va être couvert de roses. C'est dommage, dans une semaine ou deux, ça va éclater de partout.
Il y a eu une proposition de faire un documentaire sur l'architecte en question. J'ai dit, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un documentaire sur les habitants de mes maisons? Ça me semblait plus intéressant. Et donc, Émilie Montagnier, après, elle a fait un film en allant voir des maisons et les habitants de mes maisons.
Et vous avez un petit panneau solaire?
Oui. Oui, grâce à ça, on a l'eau chaude. Hein. On a l'eau chaude dès qu'il y a du soleil, même parfois l'hiver. Il fonctionne quand il y a du soleil.
Et je me suis demandé s'il ne pouvait pas être placé ailleurs pour être masqué.
Ah, mais je ne sais pas. Avec Eric, on a décidé que ce serait là. Voilà.
Parce que l'objet n'est...
C'est pas très beau, non.
Pas très intéressant.
Non, mais... Je me suis habituée.
Vous ne le voyez plus?
Non.
Et donc, dans l'expo, il y a plusieurs espaces. Il y a l'espace où sera projeté le film d'Émilie. Un premier espace que j'ai conçu comme un cabinet de curiosité. Je voulais pas qu'on fasse une exposition uniquement... presque didactique sur mon travail ou ses implications. Mais je voulais rendre hommage à tous les philosophes, à tous les poètes, à tous les artistes, les peintres, les sculpteurs, les écrivains, les musiciens qui m'ont construit et qui ont toujours une influence sur la manière dont je pense le monde. Et donc sur la manière dont je dessine et sur la manière dont je construis et sur la manière dont je m'insère dans la société.
Anne Bucquet.
Bouchard.
Anne Bucquet-Bouchard, à la Fondation Bolly-Charlier, vous
oui,
êtes allée?
Oui, je suis allée, oui.
Toujours pour élargir le propos et de faire un peu sortir cette chose-là dans la ville, pour tout un certain nombre de raisons. Je ne sais pas si on aura le temps de les aborder tout aujourd'hui, mais j'ai dessiné ce que j'appellerais des bâtons de prière. On a un là, qu'on doit encore fixer convenablement, hein, tout ça. Mais... Et il y en a 14 dans la ville. Et donc j'ai fait un chemin qui est annoncé en 14 endroits dans la ville.
D'abord j'étais tout étonnée de voir notre belle maison sur le dépliant. Puis j'ai vu ma tête dans le noir là, dans le. On passait le film et je me disais mais ce film a l'air plein de charme parce que elle combinait interview et vue du jardin, enfin des petits détails comme ça qui étaient vraiment très beaux. Et j'ai été très touchée par la première salle où Eric a placé des choses qui étaient très intimes pour lui, comme des coquillages, une petite feuille, enfin un petit détail, des choses qui l'ont touché.
Ils habitent leur maison. Ils habitent leur maison.
Vous construisez ensemble?
Bien sûr. Ils habitent leur maison. On dessine ensemble, on réfléchit ensemble. Jamais je fais ça. Alors oui, effectivement, il y a sûrement, il y a de moi dedans, bien sûr. Hein? Mais il y a d'abord une confiance mutuelle dans le fait de construire leur maison. Alors ça dépend comment on le vit, mais par exemple, tu fais deux maisons à Cour-Saint-Étienne, ben ces deux maisons sont devenues trois maisons, puis avec des appartements, puis ça a été colonisé par les étudiants, puis on a poussé des murs.
Et alors, ben ça faisait un très bel ensemble avec les maquettes, les plans, les photos. C'était très beau, c'était très beau. J'étais vraiment très, très touchée de voir un peu un panorama de son œuvre avec cette fameuse étable, la première, l'étable pour les vaches. Là.
N'est pas... Ça va, je continue. À un moment donné, j'ai vraiment été très dépressif. Puis j'ai été ruiné aussi. Le combat était inégal avec la bourgmestre de l'époque. Hein. Donc j'ai vendu ma maison. J'ai été vivre dans les bois. Et puis j'étais ruiné. Et donc j'ai dit, je vais arrêter l'archi. Et c'est là que je me suis inscrit en philosophie. Et puis j'ai fait un 2A en esthétique. Et puis j'ai commencé la philo. Et trois mois après, j'étais guéri. J'ai fait la philo à 40 ans, c'était un bonheur, c'était vraiment un bonheur. Et je suis allé trouver Lucien, j'étais complètement déprimé, en lui disant, mais regarde, voilà ce que j'ai fait, t'as vu le projet magnifique qu'on a fait avec ces gens, c'est formidable. Et il m'écoute pendant une heure, mais j'étais pas bien. Il m'écoute pendant une heure, puis il me dit, attends. Donc il descend à la cave, il va chercher une bouteille de vin blanc, un saucisson d'Ardèche, puisqu'il a une petite maison en Ardèche. À 11h du matin, il découpe son saucisson, il me regarde et il me dit, et tu t'étonnes d'avoir des problèmes? Oui, oui. J'ai exposé le travail de Lucien Kroll avec, il y a déjà quelques années de ça, avec Jean-François Pierson. Il était mon prof, il était l'assistant de Michel Boulanger à l'époque que j'ai eu comme professeur. Jean-François Pierson, j'étais son élève. Quand il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, dans le cadre de la Biennale des Arts Plastiques à Liège, on m'avait demandé de faire une exposition. Moi, je ne me trouvais pas prêt. J'avais dit non. Mais par contre, je veux bien faire une exposition sur des gens que j'estime. Et donc, j'en ai fait une exposition conjointe avec Lucien Kroll et Jean-François Pierson. Et le dialogue entre les deux était vraiment intéressant. Oui.
Les petites choses qui font le quotidien des humains prennent une vie différente aussi dans les espaces.
À la Galerie Juvénal, Place Verte à Ouï, samedi et dimanche de 14 à 18 heures, exposition jusqu'au 30 juin d'Éric Furnemont avec Julie Maréchal, Émilie Montagnier, Anne Biquet-Bouchat, Émiline Curien et Éric Furnemont. Pourquoi bâtir encore ? Partir Junico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Mais je veux dire, voilà, par exemple, dans le processus de l'exposition que Luc a proposé, à un moment donné, il est venu l'idée, est-ce qu'on ne ferait pas un documentaire sur toi ? Et je pense que j'ai dit tout de suite, non.
Chaque fois qu'il a imaginé une maison, en tous les cas la nôtre, il a modelé cette maison. Elle est d'ailleurs dans l'exposition aussi. Et alors, il y a des dessins, il y a des choses qui sont très belles qu'il peint.
Et vous savez bien qu'il a étudié aussi la philosophie.
Oui.
S'il y a de la volonté, de l'énergie et un peu d'argent pour faire un documentaire, faites un documentaire sur les gens qui habitent mes maisons. Et pas sur moi.
Il y a le jardin secret. Là, on a creusé un étang, et quand il y a de l'eau, en hiver, quand il pleut fort, l'étang se remplit, mais puis se vide parce qu'on n'a pas mis de bâche. Mais donc au-delà, il y a encore deux haies derrière lesquelles on campait, donc il y a vraiment encore un jardin secret. Il y a septentard, donc c'est une haie.
Ce ne sont pas mes maisons, ce sont les leurs. Hein, ce sont les leurs, c'est super important.
Et pourquoi secret?
Parce qu'on avait placé notre tente et deux, et on avait, Luc avait imaginé deux et en rond comme ça, en cercle, et qui nous cachait un petit peu de la route. Et il y avait un fermier qui menait ses vaches dans la prairie. Alors on entendait aussi la respiration des vaches qui ruminent, comme ça, c'est très apaisant. Et alors on a joué sauvage, quoi. On avait un feu, on faisait du feu, on cuisinait, on chauffait notre bouloir sur le feu, enfin, on jouait. Voilà. Pendant beaucoup d'années, oui, jusqu'à notre pension.